Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte aujourd'hui l'enquête sur l'assassinat d'Arnaud Guisse en 2010 dans l'Orne. Une histoire traversée par deux questions fondamentales. Serais-je capable de ça? Ou quelqu'un serait-il susceptible de me faire ça? Un crime terriblement ordinaire, donc. Pour le débrief, j'ai invité Maître Kian Barakat du barreau de Caen, avocate dans ce dossier de l'un des accusés. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le vrai début de cette histoire se déroule dans un supermarché de l'Aigle, dans l'Orne, au milieu des années 2000. Arnaud travaille au rayon boucherie et Mélanie à la poissonnerie. Et ce qui devait arriver arriva, le coup de foudre. Et 4 ans plus tard, 2 enfants. Le mariage de la carpe et du lapin, en quelque sorte. Mais est-ce qu'un poisson et un mammifère ont la moindre chance de s'aimer? Au-delà des apparences, je veux dire. Le samedi 10 juillet 2010, vers 13h, Mélanie déboule à la gendarmerie de l'Aigle.
Bonjour. Voilà, c'est pour mon compagnon, Arnaud. Il a disparu depuis hier soir. J'ai pas de nouvelles, je suis très inquiète.
D'accord, asseyez-vous, madame.
Asseyez-vous.
Alors, le nom de la personne disparue.
Arnaud. Arnaud Guisse. G-H-Y-S. Voilà.
C'est votre mari?
Non. On n'est pas mariés, mais on a 2 enfants, et comme vous pouvez le voir, je suis enceinte, on attend le 3e.
D'accord, et votre nom à vous, c'est
Mélanie. Mélanie Fleury.
Elle explique aux gendarmes que la veille au soir, vers 10h30, Arnaud est allé boire un verre dans un bar de l'Aigle, et que depuis, il n'est pas rentré, et qu'il ne répond plus au téléphone.
J'ai appelé tous ses copains et toute sa famille. Personne ne sait où il est. Et aujourd'hui, il devait aller aider mon père à charger une remorque de bois. J'ai eu mon père, il n'y est pas allé. C'est pas du tout son genre, Arnaud.
Et vous voyez une raison qui aurait pu l'amener à disparaître, madame?
Non. Aucune. On est un couple et une famille heureuse.
Pas de dispute, pas de fâcherie.
Non. Vraiment aucune. Tout allait bien, il n'avait aucune raison de partir.
Entendu, madame. Bon, nous allons alerter le parquet. Hein. Et selon toute vraisemblance, le parquet va lancer une procédure pour disparition inquiétante. Et on vous tient au courant. Il faudra probablement que vous reveniez vers nous. On aura besoin de toutes les informations que vous pourriez avoir. Entendu?
Entendu.
En attendant, Mélanie prévient sa belle-mère, la mère d'Arnaud. Et elle diffuse un message sur Facebook à l'attention de tous ceux qui pourraient avoir des infos. Et voilà, la nuit arrive, Arnaud n'a toujours pas donné de nouvelles. Le lendemain, la famille et les amis se mobilisent pour faire le tour de l'Aigle et des environs. Ils cherchent la voiture d'Arnaud. Et c'est un cousin de Mélanie qui la trouve.
Elle est garée sur le bas-côté de la route. Un peu en travers de la forêt à Ré.
Mélanie prévient tout de suite les gendarmes et tout le monde se retrouve sur place. Mélanie arrive avec son père.
Bon, personne dans la voiture. Elle n'a pas l'air d'avoir été accidentée.
Et là, le père de Mélanie monte sur un talus.
Il est là! Il est là!
Le corps d'Arnaud est étendu dans une clairière pas loin de la voiture. Il porte un t-shirt rouge, il est étendu sur le dos, son pantalon est légèrement baissé et un de ses avant-bras masque son visage. Un gendarme soulève le bras. Des mouches s'envolent. Il est mort, Arnaud. Il est mort. Les gendarmes retournent le corps.
Ouais, ben on lui a tiré dans le dos.
Il a une plaie rouge entre les omoplates, de 5 cm de diamètre.
Au vu de la quantité de sang sur le sol, il a été tué ici. Hein. Bon, va falloir ratisser les alentours, hein.
Les techniciens en identification criminelle ratissent la zone autour du corps. Ils trouvent des canettes et des mégots.
Et son portable, vous l'avez retrouvé? Non, chef. Et les clés de la voiture non plus. Mais il y a son portefeuille, avec 15 euros à l'intérieur.
Dans la foulée, les techniciens en identification criminelle font des prélèvements sur le cadavre, sur ses vêtements et à l'intérieur de la voiture. À la recherche d'ADN, bien sûr. Assez vite, les gendarmes apprennent qu'Arnaugis était au chômage. Il ne travaillait plus au supermarché de l'Aigle, hein, mais chez un boucher qui a fait faillite. Ils apprennent aussi, et ça c'est plus intéressant, qu'Arnaud a eu une adolescence, disons, agitée. Il a commencé à avoir des problèmes avec la justice vers 13 ans, des petits vols. Et ça s'est corsé dans les années qui suivent. Il a fini par braquer une pharmacie. Ça lui a valu 5 ans de prison.
Ah, mais je vous jure que c'était fini tout ça. Il avait complètement tourné la page. Les conneries, c'était vraiment fini.
En fin de journée, les gendarmes appellent Mélanie, comme prévu, ils veulent l'entendre à nouveau.
Évidemment, madame, on cherche à comprendre qui a pu le tuer et pour quelle raison. Est-ce que Arnaud était en conflit avec quelqu'un?
Non, sincèrement, je vois pas.
Des problèmes de couple, peut-être?
Ah, non, non. Tout allait très bien entre nous. Bon, il buvait un peu. Mais bon, il était au chômage, c'était pas facile. Et d'ailleurs, il voyait quelqu'un pour arrêter l'alcool.
Quand les gendarmes commencent à reconstituer l'emploi du temps d'Arnaud, son goût pour la picole se confirme. Le jour de sa disparition, vers midi, il est allé une première fois acheter de l'agneau au supermarché. Et il y est retourné l'après-midi.
Alors, voyons. Il a acheté une bouteille de whisky et une bouteille de rhum.
Ah oui, du rhum et du whisky. Il aimait les trucs qui rendent aveugle. Vers 16h, son copain Damien a débarqué. Églou, églou, églou. Il faisait beau, les gamins jouaient dans la piscine gonflable dehors. Finalement, le copain Damien est resté pour dîner. Il est parti vers 21h. Mélanie a couché les enfants. Arnaud et Mélanie se sont collés devant la télé. Elle dit qu'ils ont fait une petite partie de jambon en l'air. Et que donc, vers 22h30, Arnaud a annoncé qu'il allait boire un verre. Et il est sorti. Et elle ne l'a jamais revu vivant. Le problème, c'est qu'au bistrot de l'Aigle, le patron ne peut pas jurer l'avoir vu ce soir-là.
Arnaud ? Je le connais, oui. Mais est-ce qu'il était là ce soir-là ? J'avoue que je m'en souviens pas du tout, moi.
Du coup, est-il vraiment allé boire un verre? Quand il décortique les relevés de son portable, les gendarmes s'aperçoivent qu'à 22h56 précisément, Arnaud Guis a envoyé son dernier SMS à son copain Damien.
Eli, tu peux chercher l'endroit où il était quand il a envoyé ce SMS? Ouais, ouais, pas de problème. Oh putain, il n'était pas à l'Aigle. Il était à Ré.
Ré, c'est un village collé à l'Aigle. Mais c'est surtout l'endroit où on a retrouvé son corps. Confirmation qu'il a été tué là où on l'a trouvé. Et que le meurtre a eu lieu après 22h56. Le copain Damien, destinataire du dernier SMS, est naturellement interrogé par les gendarmes. C'est un gamin de 19 ans.
Bien, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous donner votre emploi du temps le jour du meurtre?
Le 9.
Oui, bien sûr. Moi, j'étais chez Arnaud. Toute la fin de l'après-midi, entre 4h l'après-midi et 9h le soir.
Et après?
Bon, après, je suis rentré chez moi. Je passais la soirée avec mon voisin. On a maté un film. Et après, je suis allé un peu sur Facebook.
Vous avez reçu un SMS de Guis Arnaud à 22h56. Vous vous souvenez de ce qu'il vous disait dans ce SMS?
De mémoire, il disait quelque chose comme « C'est toujours OK ?» Et ça veut dire quoi, ça? C'est toujours OK? Ça veut dire qu'il voulait qu'on se voit. Il devait passer me chercher. Donc je suis descendu en bas de l'immeuble, mais il n'est pas venu. Et donc je suis remonté chez moi, et j'ai retrouvé mon voisin. Comment est-ce que vous vous êtes connu? Comment est-ce que vous êtes devenu ami avec Guy Arnaud? C'est Florian, le cousin de Mélanie, il nous a présenté. Vous vous voyez souvent? Ah oui, oui. Je sais pas quoi, 4 ou 5 fois par semaine. Pour boire un coup, pour bouffer, je gardais les petits de temps en temps. À votre connaissance, est-ce que Guy Arnaud était en conflit avec quelqu'un? Je sais qu'il a eu un problème avec des gens qui... Il avait vendu une voiture, une Golf. Ok. C'est une piste à explorer, à part ça. Je suppose que vous connaissez son passé, la prison, tout ça. Peut-être qu'il est resté en lien avec des gens de cette époque. Moi, j'avoue, j'en sais rien. Mais c'est possible. Le voisin est bien sûr convoqué pour vérification. Il confirme qu'il a bien passé la soirée avec le copain Damien. Là-dessus tombent les résultats de l'autopsie du corps d'Arnaud Guis. Alors, l'orifice d'entrée qu'il a dans le dos correspond à un tir de fusil de chasse, une cartouche de plomb de chasse numéro 4. C'est un gros calibre. D'ailleurs, les plombs sont tellement gros qu'ils sont restés à l'intérieur de la cage thoracique. Aucun orifice de sortie. À quelle distance le tir? Je dirais 1 mètre. On le sait par les traces de poudre, ça. Et cause de la mort, docteur? Oh, c'est simple. Les plombs ont sectionné la moelle épinière. Et ensuite, le poumon droit qui a explosé, ça a provoqué un hémopneumothorax. Et c'est de ça qu'il est mort. Il est mort tout de suite? Non, pas tout de suite. Je pense qu'il a mis une 20aine de minutes à mourir. Ah, une dernière chose. Il est tout à fait probable que le corps a été retourné. Je ne sais pas dire combien de temps après la mort, mais je dirais quelques heures après. Le copain Damien a ouvert 2 pistes. Des gens à qui Arnaud a vendu une Golf et qui n'étaient pas contents, et des amis de son adolescence tumultueuse avec lesquels Arnaud aurait peut-être renoué. Mélanie Fleury, la compagne d'Arnaud, ouvre une 3e piste. Un incident qui serait survenu courant juin. Un homme grand et mince, il est venu sonner chez nous en pleine nuit. Et Arnaud, il est sorti. Je l'ai entendu s'engueuler. Et après, l'autre, il est parti. Vous pourriez nous le décrire, cet homme? Je sais pas trop, je l'ai vu par la fenêtre de la cuisine. Il faisait noir, mais je vous dis, il était grand et mince. Ah si! Si, je pense qu'il avait une carabine à la main. J'en suis pas sûr, mais je pense. Dites-moi, madame, vous nous avez dit qu'il n'y avait aucun problème dans votre couple. Alors je vous repose la question, est-ce que c'est vraiment le cas? Non, c'est pas vrai. Il picolait pas mal, vous savez. Et un mec qui picole, ça devient vite violent. Il me frappait, souvent. Des coups de poing... Des claques? Alors non, ça n'allait pas très bien entre nous.
Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas dit tout de suite, ça? Pourquoi est-ce qu'elle a menti au cours de son premier interrogatoire en disant que tout allait bien? Parce qu'elle avait peur qu'on la soupçonne? De quelque chose? Parce qu'elle n'avait pas la conscience tranquille? Pour tenter d'y voir plus clair, les gendarmes interrogent le père de Mélanie.
C'est vrai qu'il pouvait être chaud, Arnaud, quand il avait bu. Je me souviens, un soir, il a carrément foutu Mélanie dehors. Avec un gamin qui avait 2 ans. En pleine nuit, alors qu'elle était enceinte. Il a fallu que j'intervienne.
Ah ouais, un sale type, quoi. Le mort était un sale type. Et il n'y a pas que ça. Sa compagne Mélanie finit par lâcher qu'il avait une maîtresse.
Il passait son temps sur Internet, sur des sites de rencontres. Il me trompait, ça j'en suis sûr. Il avait des maîtresses.
Ça arrive souvent dans les enquêtes. À un moment donné, la victime, le mort, finit par passer pour un salaud. Le monde à l'envers. Et en général, voyez-vous, ça signifie que ceux qui l'accusent ne sont pas très clairs, pas clairs du tout. Les gendarmes vérifient tout de même l'existence de maîtresses et un copain confirme.
À moi, il m'a dit qu'il avait une liaison avec une infirmière.
Et la piste des maîtresses se précise quand les gendarmes découvrent qu'Arnaud Guisse avait deux téléphones portables. Un pour sa chérie et l'autre pour ses maîtresses. Ça tient la route. Du coup, est-ce que c'est pas avec une maîtresse qu'il avait rendez-vous le soir de sa mort? Et est-ce que c'est pas un mari cocu qui lui a tendu un guet-apens? À ce stade, c'est une hypothèse sérieuse. Alors du coup, quand il perquisitionne la maison du couple, les gendarmes saisissent l'ordinateur d'Arnaud. Et il le confie aux experts informatiques de la gendarmerie.
Bon, confirmation, hein. Il allait bien sur des sites de rencontres depuis environ 2 ans. Et il était en contact avec une fille de l'Aigle, qui se fait appeler Guapa. Et puis avec une autre femme, qui est bien infirmière dans l'Orne.
Les deux greluches sont interrogés, évidemment.
Oui, avec Arnaud, on se parlait pendant des heures. Mais c'est jamais allé plus loin. On s'est jamais vu. On n'a jamais couché ensemble, je vous jure. Je crois que son truc, c'était de fantasmer sur moi, mais rien de plus.
Vous avez peut-être du mal à le croire. Mais ça existe, hein. Arrêtez de penser que tous les mecs ne cherchent qu'à baiser. Il y a des platoniques aussi, je vous jure. Onze jours après le meurtre, ont lieu les obsèques d'Arnaud Guisse. Et les gendarmes sont là, bien sûr, à fureter. Ils prennent des photos, ils relèvent les plaques d'immatriculation. Ils sont convaincus que le meurtrier est dans l'entourage immédiat d'Arnaud Guisse. Et pendant la cérémonie, un truc les intrigue, et pas que.
T'as vu le copain, Damien, là? Qu'est-ce qu'il fout au premier rang, collé à la Mélanie? Je me demande s'ils sont pas à la colle, ces deux-là.
Et le doute se confirme quand les gendarmes découvrent que lui aussi, le copain Damien, il a 2 lignes de téléphone portable. Il n'en a jamais parlé de ça. Et pourquoi 2? Les gendarmes, évidemment, passent sa deuxième ligne au crible.
Je vous le donne en 1000, les gars. D'après vous, avec qui le copain Damien correspondait sur cette deuxième ligne?
Avec Mélanie, la femme d'Arnaud Guisse.
Attendez, je vais vous lire quelques messages. Je suis seul. Arnaud est sorti. Tu peux passer.
Ils sont amants, tous les deux, Mélanie et le copain Damien, les petits cachotiers. Mélanie trompait Arnaud avec son meilleur ami. Les gendarmes décident de les placer tous les deux sur écoute. Ils les entendent roucouler comme des pigeons.
Ça va, mon amour? Ouais, ça va. Et toi, mon cœur?
Ils ont bien caché leur jeu, ces deux-là. D'autant qu'en passant au crible le téléphone du copain Damien, les gendarmes s'aperçoivent que le soir du crime, il n'était pas chez lui, comme il l'a dit, à mater un film avec son voisin. Son téléphone abordé à Ré, qui est le village où on a trouvé le corps d'Arnaud Guisse. Le salopard, il a menti depuis le début. Et de 1, il était l'amant de la femme du mort. Et de 2, il était sur les lieux du meurtre. À ce stade, le plus simple serait de les coller en garde à vue tous les deux. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner leur petit nom, puisque, à moins d'être con comme la lune, vous avez compris qu'ils étaient mêlés au meurtre. Mélanie Fleury et Damien Roland. Donc les gendarmes pourraient les arrêter tous les deux. Mais souvenez-vous que Mélanie Fleury est enceinte, qu'elle est au bord d'accoucher. À tous les coups, les médecins la feraient relâcher. Tant pis. On va attendre l'accouchement. Mélanie Fleury accouche fin août d'un petit Steven. Les gendarmes attendent encore un mois le temps de l'allaitement. Et le 22 septembre 2010, ils décident d'interpeller les deux amants. Et savez-vous où ils trouvent Damien Roland ? Dans le plumard de Mélanie ! Au moins, ils ne vont pas pouvoir nier. Et voilà nos deux tourtereaux en garde à vue. Vont-ils encore mitonner ? Ou vont-ils enfin craquer ? Venez avec moi dans la salle où les gendarmes interrogent Damien Roland. C'est moi qui ai tué Arnaud. Je l'ai tué pour Mélanie. Il l'a battu, salaud. Elle n'en pouvait plus. J'ai voulu la sauver, quoi. Bien. Bien, monsieur Roland, on va pouvoir enfin avancer. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ben, le soir du meurtre, je suis allé d'abord cacher un fusil dans la forêt, dans la clairière où vous l'avez retrouvé. Et comment est-ce que vous l'avez entraîné là-bas? Je lui ai proposé d'aller cambrioler un pavillon de chasse à côté. Il avait besoin de thunes. Il m'a dit oui tout de suite. Et vous y êtes allé ensemble? Non. On s'est donné rendez-vous à 10h30 du soir à un carrefour pas loin. Et puis après, on s'est garé devant la barrière, comme la voiture a été retrouvée. On est descendu. Et l'Arnaud, il avait envie de pisser. Et moi, j'en ai profité pour aller chercher le fusil. J'ai fait 3-4 pas. Il était de dos. Et j'ai tiré une cartouche. Et après? Après, je suis rentré à pied chez Mélanie. J'y suis arrivé à 1h du matin. Pour vous dire la vérité, j'avais envie de vomir à cause de ce que j'avais fait. Et Mélanie fleurit quand elle vous accueille. Elle est au courant? Bien sûr qu'elle est au courant. Moi, j'avais envie de gerber, mais elle a voulu qu'on baise. La salope! Je devrais peut-être l'enlever, ça. Par les temps qui courent, je vais me faire taper sur les doigts. Bon, tant pis, hein. Y a que ça qui me vient à l'esprit. Je prends le risque. Alors voyons comment elle s'explique, elle, dans le bureau d'à côté. Vous saviez, madame, que votre amant Damien Roland allait tuer votre compagnon.
Oui, je le savais. Il m'avait dit comment il allait faire l'après-midi même.
Et quand il est rentré le soir, après le crime, qu'est-ce qu'il vous a dit?
Il m'a dit, ça y est, je t'en ai débarrassé.
Mais vous, vous n'êtes jamais allé sur place, n'est-ce pas?
Non. Enfin, pas le soir. Mais j'y suis allé le lendemain avec lui pour récupérer le fusil.
Vous en avez fait quoi de ce fusil?
Damien, il l'a remis chez sa mère où qu'il l'avait pris.
Dans le bureau d'à côté, Damien Roland avoue aussi la tentative d'intimidation fin juin. Vous savez, l'homme grand et mince qui était venu sonner en pleine nuit. Eh bien, c'était lui. C'était lui avec un cousin de Mélanie, un certain Florian, lequel Florian se retrouve à son tour en garde à vue.
Moi, je vous dis la vérité. Je me demande si elle n'a pas manipulé Damien pour qu'il tue Arnaud.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, monsieur?
Ben, qu'elle m'a dit plusieurs fois qu'elle voulait se débarrasser d'Arnaud.
Mais selon ses dires à elle, en tout cas, elle n'était pas sur place.
Au moment du meurtre, non. Mais d'après ce que je sais, c'est quand même elle qui est allée chercher Damien après le meurtre.
Je ne veux pas replonger dans la vulgarité, mais ça me brûle les lèvres. Le cousin Florian révèle aussi aux gendarmes qu'il y a déjà eu une tentative de tuer Arnaud.
Ce que je sais, c'est que Mélanie et Damien, ils avaient prévu de lui coller un somnifère dans un verre. Mais ce soir-là, Arnaud, il avait invité un copain à lui, Benoît qui s'appelle. Ben, du coup, d'après ce que je sais, ils lui ont collé un somnifère à tous les deux. C'était quand, ça, monsieur? C'était au mois de mai de cette année. Et pourquoi ils les ont endormis tous les deux? Ils voulaient tuer Benoît? Mais ils les ont endormis tous les deux parce qu'il était là, Benoît. Mais qu'est-ce qu'ils comptaient faire après? Ben, ils ont voulu les étouffer avec des oreillers. Et pourquoi ils sont pas allés jusqu'au bout? Ben, c'est des gaillards tous les deux, hein. Malgré les somnifères, ils se sont débattus. Donc ils sont pas allés au bout, quoi. Mais le lendemain, les deux, ils s'en souvenaient plus. Ben, quand ils se sont réveillés, ils avaient des bleus partout. Et Mélanie, elle leur a dit que c'est parce qu'ils étaient bourrés et qu'ils s'étaient battus et qu'il avait fallu les séparer. Si je comprends bien, monsieur, c'est votre cousine Mélanie qui est l'instigatrice de cet assassinat. Mais bien sûr, oui. Vous savez, c'est elle qui décidait de tout, hein. Damien, il était aux ordres, c'est tout. Bon, ben maintenant, je crois qu'on a toute l'histoire, ou presque. Reste à vérifier la part réelle de l'un et de l'autre. En attendant, ils sont mis tous les trois en examen. Damien Roland pour homicide volontaire avec préméditation, c'est-à-dire assassinat. Mélanie Fleury pour complicité d'assassinat. Et le cousin Florian pour non-empêchement de crime. Les deux premiers filent en prison, le troisième reste libre. À l'issue de son instruction, le juge acquiert la conviction que Mélanie Fleury exerçait un chantage affectif sur Damien Roland, qu'elle le menaçait de le quitter s'il ne passait pas à l'action. Et il pense aussi qu'elle est allée sur les lieux du crime, et que c'est sans doute elle qui a retourné le corps d'Arnaud. Le procès du trio s'ouvre en novembre 2012 devant la cour d'assises de l'Orne à Alençon. Dans le box, Mélanie Fleury a l'air au fond du trou, alors que Damien Roland, ma foi, présente plutôt bien. Au cours de ce procès, l'avocat de la partie civile pose une question cruciale à Damien. S'il n'avait pas eu cette envie d'uriner, de pisser, comme vous dites, comment auriez-vous fait? Ben, je l'aurais pas tué. Ça tient à peu de choses, un meurtre. Dites-moi, monsieur Roland, est-ce que Mélanie Fleury est venue vous chercher dans le bois après le meurtre? Moi, je suis là pour enfoncer personne. Au moment de dire qui a eu le rôle principal dans cette affaire, l'avocat général renvoie les deux accusés dos à dos. Je vous demande une peine de 30 années de réclusion criminelle pour l'un et pour l'autre. Quand il s'agit de plaider pour défendre son client, Damien Roland, son avocate, maître Kian Barakat, exhume une phrase de Voltaire. Les faiblesses des hommes font la force des femmes. À l'issue, ils sont condamnés tous les deux à 20 ans. Et le cousin Florian prend 3 ans pour abstention volontaire d'empêcher le crime. Aucun ne fait appel. Les parents de Mélanie Fleury prennent en charge leurs 3 petits-enfants. Et aujourd'hui, toutes les semaines, ils amènent les 3 gamins voir leur maman à la prison. Et personne n'a cherché à vérifier si le dernier enfant de Mélanie était d'Arnaud ou de Damien. Et l'avocate de Damien Roland, maître Kian Barakat du barreau de Caen, est là avec nous pour débriefer cette histoire. Maître, est-ce que la stricte égalité des peines entre celui qui tue, qui est donc votre client, et celle qui le remonte comme une pendule, vous paraît juste?
Oui, la cour d'assises a effectivement considéré qu'il convenait de les mettre sur le même plan, tous les deux, l'une pour avoir été l'instigatrice et avoir été celle qui décide et celle qui demande et celle qui prévoit et organise, et puis l'autre pour avoir été l'arme finalement de ce projet macabre et avoir accepté finalement de la suivre dans cette démarche-là.
Vous-même, c'est ce que vous souhaitiez ? Cette égalité parfaite dans la responsabilité du crime ?
Non, il n'y avait pas de souhait de la défense particulièrement à ce niveau-là. Le seul souhait de la défense, et particulièrement me concernant pour la défense de Damien Roland, c'était qu'il soit pris et tenu compte de la particulière situation dans laquelle il se trouvait, de ce chantage affectif dont il avait fait l'objet, de cette passion qui l'avait animé et de ce sentiment finalement de chercher à la sauver parce qu'elle lui disait qu'effectivement elle était en situation de danger. C'est ça qui a motivé et qui a généré finalement cette adhésion toute relative hein, mais de Damien Roland à ce projet mortifère. Et c'est ça qui effectivement, dont je tenais à ce que la cour d'assises soit pleinement consciente au moment de rendre son délibéré. Effectivement, il y a eu une diminution significative par rapport aux réquisitions du parquet.
Ouais. C'est ça que veut dire cette phrase de Voltaire, très jolie, que vous avez exhumée. Les faiblesses des hommes font la force des femmes. C'est rigolo que ça vienne de la bouche d'une femme.
Mais oui, évidemment. Mais quand je plaise, je ne suis pas une femme, je suis avocat. Oui. Mais c'est vrai que... Oui, parce que c'est vraiment toute la particularité de ce dossier, toute sa dynamique finalement psychologique, c'est ça qui fait le ressort de ce dossier. On a vraiment une femme qui était plus âgée, Damien Roland, ça faisait 17 jours qu'il avait 19 ans lorsqu'il commet les faits. Mélanie Fleury est effectivement plus âgée, elle a plusieurs années de plus que lui, elle est une femme et une mère surtout. Et elle est dans cette ambiguïté qu'elle cherche à entretenir, de lui dire de manière récurrente qu'elle est battue, qu'elle est violentée, qu'elle est violée, et qu'un jour elle restera sur le carreau. Et donc, j'avais le sentiment qu'effectivement elle avait appuyé sur un bouton qui était un bouton très précis, très particulier, puisque dans l'histoire de Damien Roland, on retrouve effectivement une mère violentée, on retrouve un petit garçon complètement impuissant et lui-même victime de violence. Et on retrouve effectivement cette dynamique psychologique de cette angoisse d'abandon et cette volonté vraiment d'essayer de sauver cette mère comme lui, personne n'a pu sauver la sienne.
Vous diriez qu'il était sous emprise ?
Oui.
Vous iriez jusque-là ?
Oui, je pense parce qu'on a vraiment un moment qui est un déclic, qui est le moment de la garde à vue. Et on voit à travers, alors à ce moment-là, on est il y a déjà de nombreuses années, on est avant la réforme qui permet maintenant aux avocats d'être présents aux côtés des clients, effectivement au cours de la garde à vue, au cours des auditions. J'avais rencontré Damien Roland à la gendarmerie de L'Aigle pour faire un entretien, mais il était seul au moment des auditions. Et on voit à travers la retranscription qui est assez, assez remarquable, hein, assez précise des enquêteurs, on voit effectivement vraiment une dynamique qui se modifie, on voit vraiment quelque chose qui change à la faveur des révélations que fait Damien Roland, à la faveur également des révélations que lui rapportent les enquêteurs de ce qui se passe de l'autre côté dans l'autre bureau pour Mélanie Fleury. Et on voit vraiment, ça monte en puissance, il pleure beaucoup, il fond en larmes et à un moment donné, il a même une explosion d'incompréhension qui se manifeste physiquement, où il comprend que finalement, ben, en fin de compte, elle s'est servie de lui. Donc oui, je pense, c'est d'ailleurs un garçon qui est décrit comme extrêmement gentil et très serviable et très influençable. Donc oui, j'ai ce sentiment-là, oui.
Est-ce que cette emprise existe toujours au moment du procès ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont toujours, enfin, que lui est toujours amoureux d'elle ?
Ben, c'est un peu compliqué. En tout
Parce
cas...
Il dit cette phrase, je ne veux incriminer personne.
Bah, on a même eu plus que ça. On avait même Mélanie Fleury qui disait qu'elle finalement qu'elle l'attendrait en quelque sorte. Donc c'était vraiment aller loin. Elle continuait d'ailleurs à lui écrire. Lui a pris de la distance. Au moment du procès, je pense que c'était encore frais, c'était encore récent, mais on peut dire qu'à la faveur des années qui se sont écoulées, vraiment, il y a cette distance et vraiment ce besoin de reconstruction à distance de tous ces événements et de cette personne qui se sont faites, et je pense que c'est salutaire, oui.
Ils ont été tous les deux condamnés à 20 ans, oui. Donc ils doivent être à peu près aujourd'hui libérables tous les deux en conditionnel. Elle est sortie, elle ?
Alors, j'avoue que j'ignore quelle est sa situation carcérale. Pour sa part, alors, il faut savoir qu'ils faisaient l'objet tous deux donc d'une période de sûreté de 10 ans.
D'accord.
10 ans,
on n'est pas loin. On n'est pas loin.
On n'est pas loin, ce d'autant qu'on a obtenu des réductions de période de sûreté pour Damien Roland parce qu'il se comportait extrêmement bien, qu'il se projetait bien également dans l'avenir. Donc oui, bientôt, on y sera.
Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment vomi après la commission des faits? J'en ai raconté des histoires criminelles. Je n'ai jamais entendu un assassin, et là il s'agit d'un assassin, pas d'un meurtrier d'occasion, dire qu'il a vomi après le geste.
Alors, oui, j'en ai absolument la conviction, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est assez fidèle à la narration des événements et des faits. Damien Roland est pas quelqu'un, c'est pas un dissimulateur et c'est pas voilà, à partir du moment où effectivement il était pris de toute façon dans une stratégie qui le dépassait totalement et qui était pas du tout conforme à sa volonté et à ses aspirations, et donc à partir du moment où il a commencé à raconter l'histoire, tout était effectivement conforme à ce qui a pu être vérifié. Et ce point-là en particulier est authentique et c'est vrai qu'il est assez révélateur. Alors effectivement, d'un point de vue juridique, il y a une décision de justice qui le reconnaît pour des faits d'assassinat. Donc on peut dire que c'est un assassin. Mais ce que j'expliquais, et c'est pour ça que je faisais la dichotomie dans ma plaidoirie, on a vraiment effectivement un comportement et une gestuelle et finalement une dynamique qui a abouti au décès d'un homme. Mais en réalité, sur le plan psychologique, on n'a pas du tout quelqu'un qui voulait la mort de cet homme. D'ailleurs, il le dira, il a ôté la vie à un père de famille, lui qui n'a jamais pu connaître son père et avoir effectivement une vie de famille. C'est quelque chose, c'est une souffrance qui demeure et qui demeurera toute sa vie. Donc oui, il y a cette culpabilité qui physiquement se traduit par cette émotion irrépressible, effectivement, voilà, il s'arrête sur le bas-côté et il vomit. Il vomit.
Et ensuite,
il vomit ce qu'il vient de faire.
Lorsqu'il se retrouve en garde à vue, ça non plus, je ne l'ai pas vu souvent, il avoue tout de suite.
Oui.
Il ne cherche pas à financer du tout.
Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement il était face à la situation et à la réalité et qu'il fallait dire les choses, il a tout dit, il a tout dit aussitôt et avec beaucoup d'authenticité, et effectivement tout ce qu'il disait se révélait finalement corroboré par des éléments, soit de déclaration des uns et des autres, soit des éléments objectivés par l'enquête.
Vous venez de dire à l'instant qu'il n'a jamais eu vraiment de vie de famille et que lui-même n'a pas de famille, mais il a peut-être un enfant. Je pose cette question et j'espère que le petit Steven nous écoute pas et nous écoutera jamais, mais tout au long de cette histoire, on se demande de qui est ce petit garçon.
Oui, je comprends. La question est restée un peu en suspens également, planant un peu sur les débats d'assises. Enfin, il n'y a pas que cette question-là qui est restée à planer, mais lui se sent assez au clair par rapport à ça. Et,
il n'a pas envie de savoir.
Pour l'instant, c'est pas une démarche. Il a vraiment le sentiment. Enfin, Mélanie lui a toujours dit que c'était pas son enfant et il en est resté à cette croyance-là.
Ce que j'entends, Maître Barakat, c'est que le procès a eu lieu il y a 8 ans, 9 ans, que vous continuez à le voir.
Oui, c'est le cas. Oui, je continue à être son conseil. Il me fait l'honneur de me confier encore la défense de ses intérêts.
Oui.
Et effectivement, j'ai des contacts réguliers avec lui.
C'est-à-dire, vous allez le voir au parloir à quel rythme?
Alors non, c'est pas vraiment rythmé de cette façon-là, bon, même si là on touche le secret professionnel, mais effectivement j'ai été amenée à le revoir à plusieurs reprises depuis le jugement.
Vous faites ça avec tous vos clients ?
C'est un dossier qui, effectivement, émotionnellement était très, très particulier, qui a eu une résonance et que j'ai porté avec
plus d'investissement
beaucoup d'énergie.
Que d'autres.
Oui, parce que, enfin, non, plus que d'autres, je ne sais pas.
Oui, non, bien sûr que non.
Non, mais dans le sens où, là, il y avait une candeur chez ce garçon. C'était un gamin, et il y avait vraiment une authenticité, presque une innocence, qui était complètement en contraste avec la réalité des faits qui s'étaient produits, qu'il avait commis et qu'il endossait sa responsabilité. C'était pas le problème, mais vraiment on sentait que c'était quelqu'un qui avait été propulsé dans cette situation-là et qu'il n'avait jamais eu la volonté de faire ça, jamais.
Une dernière question, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes récits criminels. Pourquoi est-ce que tous ces gens-là ne pensent pas tout simplement à divorcer ?
Eh bien, c'est une excellente question et nous l'avons posée à Mélanie Fleury plus particulièrement, puisque la question qui était...
Oui, c'est plutôt elle de répondre.
Voilà, on a tenté d'avoir une réponse. Hein. On lui a dit, et je lui ai dit plus particulièrement, qu'effectivement, il y avait 1000 possibilités. D'ailleurs, Damien Roland avait lui-même fait des démarches pour effectivement organiser éventuellement une vie après la séparation d'avec Arnaud Guis, organiser les choses pour qu'elle soit loin, qu'elle soit à distance, qu'elle soit protégée. Elle n'a jamais voulu. Elle a toujours dit que tant qu'il serait vivant, finalement, eh bien, le problème demeurerait. Et effectivement, on voyait poindre le fait qu'elle souhaitait qu'il soit supprimé.
Redisons-le à tous les maris qui ne veulent plus vivre avec leur femme, à toutes les femmes qui ne veulent plus vivre avec leur mari. Le plus simple, c'est de divorcer, que de passer 10 années ou 15 ou 20 en détention. Je vous remercie infiniment, c'est Maître certain. Barakat du barreau de Caen.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.